Sion, c'est quoi? Israël. Non, mais ce n'est pas l'usine à côté ici, je ne sais pas, le transport. Si, ça existe aussi, mais en fait, ils se sont fait inspirer là. Hein. Zion. Zion. Sion. C'est bien Sion. Donc le 6 décembre, donc, à la rue du Collège, l'église baptiste de Roubaix, le 6 décembre, dans l'après-midi et le soir, avec la venue de Robert Blancou. Robert Blancou, donc, c'est un homme pédagogue, conférencier, qui a un cœur pour Israël, dont la maman, je pense, est juive ou a été juive, et qui a écrit un livre où il explique un peu donc, de quoi il s'agit, cette relation importante entre Israël et l'Église. Donc, il sort des nôtres le 6 décembre, à partir de 14h jusqu'à 22h30 le soir. C'est parce que, comme j'ai dit hier, dans cet rassemblement à Roubaix, une guérison tellement stratégique et qui a pris tellement de retard, c'est celle qui doit se faire entre Israël et l'Église de Jésus-Christ. C'est aussi une clé par rapport avec l'avenir de l'Église. Ça, c'est un peu notre point de départ et basé sur cette idée. Donc ce frère va nous apporter un enseignement, puis en même temps nous allons rentrer dans une prière et une louange par rapport à Israël. Amen. Il y aura d'autres invitations, c'est la seule qui me reste en ce moment, donc à partir de dimanche prochain. Amen. Maintenant je voudrais vous partager une petite réflexion sur tout ce qui est de restauration. Je reviens là-dessus parce que donc à la prière communautaire donc de jeudi soir ou je ne sais plus quand, on en a parlé et j'étais impressionné par le fait que une fois que nous avons lancé le sujet, tout de suite Jean-Luc, c'est notre frère intelligent, n'est-ce pas, qui il a sorti toutes sortes de pistes. Non, c'est ça qui a. Ah. Et puis je me suis dit tiens, c'est intéressant d'avoir les pistes et de savoir un peu où on va avec ce projet de restauration. Pourquoi la restauration? C'est parce que, quelque part, Dieu nous fait passer à travers un projet de reconstruction de nos vies pour que donc finalement son Église puisse en bénéficier et que donc le monde autour de nous aussi puisse rentrer dans cette même restauration. Vous n'êtes pas contre? Vous êtes d'accord? Donc, c'est tout simplement des pensées parce que je me suis dit, lorsque nous avons atterri sur Wattignies il y a plusieurs années, on était un peu sur une espèce de ruine. Enfin, je le dis maintenant parce que, vous savez, lorsqu'on a rénové une maison, ça nous arrange quelque part, doubler un peu, n'est-ce pas, toutes les labeurs et puis la sueur et toutes ces difficultés que nous avons eues de retaper telle et telle maison. Et moi, lorsque j'y pense maintenant, ça me donne des frissons parce que je me suis dit, c'est pas possible qu'on était dans un état aussi pitoyable que ça, dans cette, enfin, c'est une espèce de vieille fermette, quelques-uns d'entre vous peut-être l'ont connu à l'époque, où il y avait, semble-t-il, rien qui n'allait, vous savez, des fuites dans la toiture. On a dû passer avec les seaux, hein. Chaque fois que ça pleuvait la nuit, on avait 5 seaux. Il fallait les positionner stratégiquement, n'est-ce pas? Et quoi d'autre? Des poutres maîtresses qui étaient complètement atteintes par l'humidité. Donc il fallait les remplacer par la suite. Et c'était terrible. Est-ce qu'on a fait une bêtise en rentrant dans cette maison? J'en sais rien. Ce que je sais maintenant, c'était une ruine qui est devenue maintenant une belle maison. Ben, il fallait du temps, quoi. Je pense que c'est une petite image un peu de ce que le Seigneur veut qu'on puisse vivre dans nos vies à chacun. Donc voilà un peu mes propos de ce matin. J'ai déjà perdu mes notes. Ça tombe déjà en miettes. Hein. Alléluia. Et puis, je me suis dit, il y a plus d'étapes à respecter lorsqu'il s'agit quand même de mettre en place une telle restauration. Et je pensais au tabernacle, au temple de David et de Salomon, n'est-ce pas, où il y a des détails. Jusque quand même le moindre des choses qui sont proposées par Dieu donc au roi David, c'était surtout Moïse et ensuite David, hein, qui avait reçu ces détails. Et puis ils ont su les mettre en place avec une provision adéquate et parfaite qui est venue de Dieu. C'est-à-dire des différents rois de la région ont su quand même fournir des matériaux au bon moment. Il y a eu des arrangements. Il y a eu aussi des offrandes de la part donc du peuple pour que donc le temple, par exemple, soit financé, entre guillemets. Et tout s'est mis en place. Et je me suis dit, nous devons aussi peut-être passer par de telles étapes. Et je pense que c'est en cours. Hein. Moi, je sens que on est sur ce chantier de restauration depuis peu. Et finalement, il a fallu, enfin pour moi, il a fallu du temps quand même pour arriver et à admettre que la restauration arrive à partir du moment où on reconnaît qu'on en a besoin. Il faut déjà accepter que finalement, rien ne va plus, que ça tourne en rang, et ce sont des pensées difficiles à admettre. Parce que naturellement, on a envie, n'est-ce pas, de remplir notre, de stimuler notre orgueil, comme quoi tout va bien chez soi, lorsque tout le temps derrière, on sait, il y a des difficultés, des dégâts. C'est une réalité par laquelle il faut passer. Une réalité d'admettre qu'on a besoin d'être restauré. Donc les étapes, hein, c'est très court, j'espère, mais je vous en parle parce que c'est, je pense que c'est dans mon cœur et ça monte dans ma tête. Parce que je me suis dit, il faudrait quand même que je vois où on va avec tout cela. Vous savez, lorsqu'on a démarré là à Ouattini, il y a un frère là qui m'a dit, ben, écoutez, Ian, tu dois mettre en place une espèce de synthèse, un plan détaillé de comment tu veux procéder avec ce bâtiment, n'est-ce pas? Bon là, à l'époque, c'était la toiture en premier, parce que cette histoire de fuite, c'est pas évident. Et ensuite, le sol, parce qu'avec une humidité montante, il fallait quand même aussi corriger ce problème. Bon, voilà. C'est-à-dire, il a fallu toute une méthode, une approche qui était systématique et qui était suivie. Et pour moi, c'était pas évident, mais en fait, avec ses frères autour, je me suis dit, oui, pourquoi pas rentrer dans cette approche étape par étape. Une première étape pour nous, je pense que c'est important, c'est de reconnaître que Dieu seul fait des miracles. Non, attendez, vous le savez, hein. Vous le savez, mais en fait, je pense que c'est une pensée à porter dans nos cœurs pendant toute cette restauration, que ce n'est pas nous les restaurateurs. C'est lui qui est un peu donc le maître d'ouvrage. Parce que c'est pas Jésus qui a dit, je bâtirai mon église. Je bâtirai mon église. Enfin, c'est pas nous qui rebâtissons. C'est plutôt lui. Père, Fils et Saint-Esprit qui seront là. Et donc, ce texte vient dans le psaume 72. Je l'ai lu il y a plusieurs années. Et je me suis dit, c'est un texte important. 72, le verset 18. Béni soit l'Éternel Dieu, le Dieu d'Israël. On peut dire le Dieu de source de vie, le Dieu de ma famille, mon Dieu, qui seul fait des miracles. Amen. Seul. Non mais attendez, c'est pas une question de venir participer avec Dieu, comme quoi on a un certain monopole sur les miracles par rapport avec une restauration. C'est lui seul qui veut se tailler une gloire particulière, une renommée unique à travers tout ce qu'il veut faire. Alors, le problème, c'est que ça implique que de temps en temps, on serait obligé de faire un recul et d'admettre que finalement, on a fait basculer un peu la chose ou on a fait des bêtises et on n'a pas laissé Dieu seul faire des miracles. Ça présuppose aussi qu'il y aurait des moments où on aura une soif terrible des miracles parce qu'on serait dans un état de désordre total. Vous savez, lorsqu'il y a des chantiers qui démarrent, ben c'est des travaux, des qu'on appelle ça, des travaux de base là, les grosses œuvres de fondation justement, et puis toutes sortes. Et puis c'est un désordre total, poussière, boue, je ne sais pas quoi d'autre, ça s'éclabousse. Et ça peut être comme ça dans un projet de restauration avec Dieu. Mais il faut que ce réflexe soit toujours porté dans nos cœurs. Dieu seul fait le nettoyage. Dieu seul fait le miracle de nous restaurer. Et c'est pas évident parce qu'on veut toujours attirer un certain droit pour soi-même. Amen. Et je pensais un peu à Anne. Anne qui avait ce problème d'infertilité ou de stérilité. Elle n'arrivait pas à faire un enfant. Qu'est-ce qu'elle a fait, cette Anne? Donc c'est dans le premier livre de Samuel, chapitre 2. On ne va pas y tourner là maintenant. Qu'est-ce qu'elle a fait, Anne? Mais elle a crié. Elle a crié au fond de sa stérilité. Au fond de sa stérilité, elle a su ouvrir son cœur, ouvrir donc ses sentiments, vraiment se remettre entre les mains de Dieu. Et tout ce qu'elle avait comme douleur d'enfantement, comme désir profond, est sorti dans cette prière. Jusqu'au point où on lui croyait un peu ivre, fou, saoul, et ainsi de suite. C'est comme ça qu'on se met entre les mains de Dieu pour que lui, il vienne faire les miracles de fertilisation dans nos cœurs. Amen. Il veut mettre en place une semence, mais il attend à ce qu'il y ait une réceptivité pour que cette semence soit là. Il ne va pas mettre la semence dans une mauvaise terre, dans le mauvais cœur. Donc, quelque part, il cherche nos cris de cœur. C'est peut-être un chant. Je lisais ça cette semaine quelque part, qu'un nouveau chant que le Seigneur met en toi peut déclencher une nouvelle étape dans ta restauration. Un nouveau chant. Il faut oser aller jusqu'au bout avec ses cris et arriver à même louer Dieu dans ta sécheresse, ta stérilité, ton sens de d'échec total. Donc en fait, Anne se battait pour recevoir le contraire, l'opposé total de ce qui était sa stérilité. C'est à partir de cette faiblesse, à partir de ce sens de découragement total que le Seigneur veut qu'on crée. Parce que ça crée un climat pour qu'il vienne faire un miracle. Je ne comprends pas pourquoi c'est comme ça, mais... Donc toutes nos douleurs et nos troubles sont quelque part préparent un terrain où on peut retrouver Dieu au niveau du miraculeux. Parce que si c'est logique, si c'est quelque chose qu'on aime, des cours de source avec tous nos raisonnements humains, mais c'est pas de Dieu. Dieu est au-dessus de nous, ses pensées sont plus élevées que les nôtres. Alors quelque part, il veut qu'on puisse connecter avec son désir de changer radicalement ce que nous vivons. Ce sont des cris de foi qui font monter en nous un début de détermination. Vous savez, je pense que c'est un peu le problème dans ces chantiers qui sont les nôtres. On arrête à un moment donné parce qu'on en a marre. Lorsque tout le temps le Seigneur nous propose de persévérer, de renouveler notre foi, de crier encore et encore, même de hurler notre douleur, et finalement, quelque part, arriver à quelque chose. La détermination, la persévérance, c'est pas une qualité que nous avons d'une manière naturelle, mais Dieu peut renouveler un peu cette vision. Deuxième étape, très rapidement, il faut mettre un corps de métier en place. Hein. Non, mais on m'a dit à l'époque qu'il fallait rentrer en négociation avec pas mal d'entreprises. Hein. Vous connaissez un peu comment les choses se mettent en place. Et il me semble que c'est ça qu'on est en train de faire ici. On a parlé des cinq ministères. Moi, je ne comprends pas grand-chose là-dedans. Moi, j'ai été élevé un peu dans un contexte où il y avait une ou deux ministères, mais pas cinq. Alors, c'est un peu dérangeant lorsqu'on parle de cinq ministères. Mais je me suis dit, pourquoi pas, parce que ça semble être dans la Bible. Non, mais je rigole aussi avec vous parce que 5 ministères dans un tout petit groupe comme celui-ci. Ben, écoutez, c'est une question d'être sérieux et objectif en rapport avec les corps de métier que le Seigneur a mis dans son Église. Amen. Et moi, je sais à l'époque aussi, on m'a parlé on m'a même demandé à un moment donné d'être maître d'œuvre, c'est ça? Il y avait maître d'ouvrage, il y avait maître d'œuvre, il y avait un chef de chantier, il y avait de tout, et puis il y avait tous ces corps de métier. C'était la complexité totale. Mais on a fait du bon boulot. Et je pense que, et je reviens aussi à cette prière communautaire, parce qu'on a commencé à faire quelque chose ensemble, on a été en train de renouveler le mandat, ou je dirais l'appel de quelques-uns parmi nous, qui avaient perdu peut-être leur vocation de base. Je dirais pas qui, mais en fait, ça m'a épaté parce que je me suis dit, tiens, finalement, cette personne-là, elle est faite pour bénir cette église. Elle est faite pour nous apporter des choses. Et elle était quelque part condamnée à rester dans le silence à cause de certaines blessures, de certains rejets. Et maintenant, on est en train de l'appeler de nouveau. À la fonctionnement, à la paix, à l'existence, ceux qui semblent être perdus. Et ça nous a réjouis parce que d'un seul coup, on voit quelqu'un d'une autre manière, sous un autre angle. On voit un futur serviteur et servante qui a des choses, des richesses à apporter dans l'Église, enfin sous le chantier de Dieu. Troisième étape, il faut des matériaux. Il faut des matériaux. Je me suis souvent posé la question par rapport avec l'Afrique dans les années passées, sans vraiment arriver à trouver une solution, parce que je me disais, qu'est-ce qu'il faut pour que les choses puissent être reconstruites lorsqu'il y a tellement de dégâts là-bas. Je connaissais un peu la situation. Et puis j'ai dû comprendre qu'il a fallu revenir à des matériaux radicaux que Dieu nous propose pour toute reconstruction de nos vies. Je m'excuse pas le mot, hein, mais en fait la repentance, je ne sais pas si ça veut dire quelque chose. Apparemment, c'est fondamental chez le Seigneur. C'est-à-dire ce désir ardent de changer de mentalité et de repartir de notre pied, sur un bon pied, en reconnaissant qu'on est passé par une mauvaise voie. Le désir de changer et de se préparer pour notre traversée. Enfin, je pensais un peu à Israël, hein, qui ont dû traverser un peu le Jourdain. À la fin de cette traversée du désert, vous savez, d'un jour à l'autre, il a fallu changer de mentalité, puisqu'ils étaient dans une mentalité de désert, sur une quarantaine d'années. Il a fallu changer à une mentalité, disons, de vie normale, enfin, entre guillemets. Hein. Donc, à manger, à le vivre, à fêter autrement, de rentrer dans le repos de Dieu. Et je pense que ça relève de la même chose pour nous. Il faut qu'on puisse être d'accord de rentrer dans les choses radicales. Vous savez, lorsque, je vous l'ai déjà dit, en allant en Afrique, j'étais toujours étonné de voir combien les Africains, ils sont prêts je sais pas, demander pardon, à se repentir, vous savez, tout de suite, on les voit devant soi, là, à genoux, hein, c'est cette émotion, cette authenticité de foi, cette simplicité vraiment de confiance. Je pense que ça nous manque un peu quelque part, surtout sur le plan visible. Mais là-bas, je me suis dit, mais c'est pas possible. Ils déposent tous ces gens. Parce qu'ils sont tellement convaincus que quelque part, on peut recommencer avec Dieu. Donc, c'est ça le fondement de base. Repentance. Le fait d'admettre quelque part qu'on n'a pas agi comme il a fallu. C'est une démarche d'ordre personnel, mais aussi une démarche communautaire. Et j'étais même présent là. Je pense qu'on a commencé à faire cela, mais il y a encore des choses à mettre en place. C'est un ciment solide. Hein. Ça tient, apparemment. Si on met en place ce genre de choses, par l'esprit, bien sûr. Et puis, la deuxième chose, c'était dans cette histoire de matériaux, c'était la réconciliation entre frères et sœurs. C'est-à-dire, sur ces chantiers, forcément, il y a des choses qui n'ont pas été bien gérées. Et il y a eu des heurts, des dissensions et toutes sortes d'éloignements. Vous savez, on le sait, on le vit dans nos familles. Alors pourquoi pas aussi dans la famille d'Église, c'est clair. Et le fait de reconnaître aussi qu'on était un peu coupés et séparés les uns des autres, en ce qui concerne l'essentiel, et l'essentiel pour moi, je pense que d'autant plus pour Dieu, c'est cette histoire quand même de se soutenir et s'appuyer à fond pour que l'autre devienne mon frère, pas seulement parce qu'on est présent dans une même salle, mais c'est parce qu'on s'aime. C'est parce qu'on veut vraiment que l'autre réussisse plus que moi, qu'on puisse le bénir et lui apporter de ce que j'ai pour que lui aussi soit enrichi, et vice-versa. Vous comprenez? Et puis, cette reprise de relation radicale est tellement importante, parce que si ça n'existe pas, mais ce sera une brèche dans le mur, au niveau des fondements. Il faut que les relations soient saines, fraternelles et renouvelées. Et moi, je ne suis pas très bon dans ce domaine-là. Hein. Je vous dis ça en face, parce que je connais un peu mes tendances, mes blessures. Mais je voudrais avec vous, frères et sœurs, qu'on puisse être plus unis au niveau de cette relation. Vous savez, il y a un texte dans les Proverbes qui parle du fait que si on est en règle avec Dieu, même ses ennemis redeviennent quelque part unis avec soi. Je ne suis pas bien, mais en fait, c'était pour dire qu'un des principes, c'est que lorsque nous sommes unis ensemble dans de bonnes relations, mais il faut s'attendre à des surprises. Que des personnes, peut-être qui ont quitté la maison de Dieu, même qui ont quitté nos familles, ces personnes-là reviendront parce qu'elles capteront quelque part cette grâce de famille, d'unité. Même ceux qui ont été hostiles, ceux qui ont été en rébellion, peuvent revenir. Et ça, c'est sûrement sur le cœur de Dieu. Parce que Dieu aime lorsque les fils prodigues reviennent à la maison. C'est lui le Père. Qui les accueille dans son cœur avec joie. Et puis la troisième chose, toujours dans les matériaux, hein, il faut faire la liste là, hein, donc c'était repentance, réconciliation, et ici j'ai marqué intercession. Donc quelque part, c'est cette équipe qui se met en place pour éventuellement préparer une ambiance beaucoup plus ouverte, enfin beaucoup plus pure, pour que donc l'ennemi n'a pas la possibilité de venir et de mettre un bâton dans la rue. Combien de temps ça nous est arrivé, n'est-ce pas? C'est parce qu'on n'a pas su veiller, on n'a pas su aller sous la muraille comme Néhémie faisait avec ses gardes, et vraiment se tenir dans la bonne position pour résister à tous les coups de l'ennemi. On a choisi des fois, peut-être par intimidation, un peu par peur, de ne pas se défendre. Allons-y. Là, moi, je suis convaincu qu'il y a de l'œuvre à mettre en place par rapport avec ce chantier d'intercession, enfin, ces matériaux. Parce que s'il y a des cœurs, même deux, trois cœurs ici, dans une telle communauté, ça peut vraiment créer une ambiance de bénédiction énorme. Quelqu'un nous disait hier, là, dans l'île, tout est possible dans un atelier, les intercesseurs ne sont pas toujours bien compris. Parce qu'ils répètent les mêmes choses et finalement ça crée un peu la ras-le-bol. Et bien on se dit, mais qu'est-ce qu'ils racontent? Mais en fait, ils sont là pour nous alerter, pour préparer à l'avance, peut-être d'une manière prophétique, ce que Dieu est en train de préparer aussi au ciel. Parce que les intercesseurs sont en contact direct entre la terre et le ciel. Et ils reçoivent des choses, vous le savez, qui ne sont pas encore visibles, mais qui deviendront éventuellement des réalités dans lequel il faut rentrer. Voilà. Et puis, je termine avec cette pensée qu'il y a des chantiers il y a des chantiers dans lesquels il faut rentrer maintenant. Amen. Je pense que là, tout à l'heure, dans cette prière pour les gens qu'on portait dans nos cœurs, j'ai entendu le premier chantier qui se présentait. Parce qu'on est à plusieurs de prier pour nos familles, enfin nos proches. C'est le premier chantier. Amen. Et, oui, je pense que, peut-être que je ne suis pas seul, mais en fait, ça m'arrive souvent à me décrocher par rapport avec cette responsabilité de père et de grand-père, par rapport avec ma famille. Et de ne pas vouloir toujours poursuivre et aller plus loin dans mon engagement. Je parle de cette manière de les bénir et de rentrer dans une prière de bénédiction et de comme quoi on voudrait retrouver la vision de Dieu pour sa famille. Et pour ne pas la dire, Elisabeth, elle m'a envoyé là-bas en Espagne. Là. Merci Elisabeth. Elle m'a laissé partir le week-end passé pour 2 jours. Et je savais que c'était du Seigneur parce qu'on avait raté quelque chose au mois de juillet. Donc je me retrouve dans la famille, c'est la famille de notre fils, Tim. Et puis j'ai passé un moment assez fort avec lui, ben aussi avec les petits-enfants, n'est-ce pas, mais surtout avec mon fils. Et ça m'a rappelé un peu le texte en Malachie. Je veux toujours de Malachie ou Malachie. Bon. Merci. On a un embarras de choix. oui, où on parle un peu du cœur. Le cœur des pères. C'est parce que j'avais pris une référence d'une autre version. Ça doit être donc vers la fin du chapitre 3. Si quelqu'un veut bien m'aider. Mais je cherche le texte là sur le cœur des pères qui s'ouvre envers le cœur des enfants. Mais moi, je n'ai pas de 4 dans ma version, j'ai un 3, chapitre 3. Ah oui, c'est la fin, merci. Merci beaucoup. C'est le verset 24, chapitre 3, verset 24. Il ramènera le cœur des pères à le fils et le cœur des fils à le père, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Alors, oui, donc il y a un changement de numérotation en fonction de la version que vous avez. No excuses. Alors, je me suis dit, Seigneur, est-ce que c'était ça? Je pense que c'était un peu ça. À Madrid, là, ces derniers jours, 2 cœurs qui se retrouvent. J'entendais mon fils parler des choses dont j'avais rêvé depuis des années. Par exemple, je dis une chose, son engagement dans la prière, comme quoi dans cette nouvelle église où ils sont membres depuis peu, il y a cette prière qui se fait, et Tim, donc, est présente dans ce groupe de prière. Des choses comme ça qui réjouissent le cœur d'un père. Et je me suis dit, ça peut se relancer. Il a quel âge, là? Il a 40, bientôt 40 ans? 38. Ça peut se renouveler. Père, vous les pères, ça peut se renouveler. Dieu est toujours d'accord si votre cœur est ouvert et disposé de relancer vos fils et vos filles. Maman, c'est la même chose. Restez sur ce cœur de maman. Qui est attendri depuis toujours, toujours sensible, mais qui a reçu des coups et qui s'est peut-être un peu refermé. Non, le Seigneur veut renouveler ce cœur de maman. Parce que le cœur des fils et des filles sont restés ouverts, mais ils n'ont jamais su retrouver le cœur des parents. Oh là là. Ça va, je suis encore en bon état. C'est peut-être une petite image pour nous, comme quoi ça c'était le cœur de Jésus, qui a reçu un coup tellement fort que tout cet sang est sorti, et ça coule encore pour nos enfants, d'accord? Pour que tout ce qui était perdu entre nos cœurs puisse être récupéré, restauré. Amen. Et puis donc il y a l'Église, il y a le chantier de l'Église de Jésus-Christ. Et ce que je voulais dire là, que vous qui êtes abonnés, enfin qui sont là, en tant que gens rattachés à cette Église, c'est très important. C'est très important pour nous, parce qu'on va vivre des choses nouvelles si on est tous d'accord d'aller sur le bon chemin, de rentrer dans cette restauration, en sachant qu'il y a des étapes à respecter. Tu sais, c'est très facile à bouler les étapes. Hein. Moi, je suis le premier de le faire. Mais quelque part, si on est tous d'accord de passer par les bonnes étapes, qu'est-ce qu'on pourrait vivre? Et là, je parle des choses concrètes. Il faut savoir construire ensemble avec les bons matériaux et en sachant à quel moment il faut rentrer dans une nouvelle étape. Amen. Ce sont des choses tout à fait normal dont je vous parle. Et je voulais vous dire ceci, que c'est très facile aussi de quitter une église. Vous savez, on est libre. On ne met pas un grappin sous vous, comme quoi il faut absolument, n'est-ce pas? Non. Mais c'est tellement facile de quitter une assemblée que finalement, j'allais dire, il y a beaucoup de monde qui le fait, n'est-ce pas? Parce qu'ils disent, bon, ça ne va pas, il n'y a plus de, etc. Et finalement, on ne les voit plus. Bah, je ne veux pas dire que moi, je n'ai pas été tenté aussi de partir. Mais, vous savez, si vous partez là, vous amenez avec vous toute cette déception, ce sens de, je ne sais pas, de ne pas être épanoui. Et vous allez mettre en danger la prochaine église. Ah, non, attention! Si Dieu nous a mis ensemble, c'est parce que il a choisi nous, comme des personnes qui ont toutes sortes de problèmes et de difficultés, mais qui ont un potentiel remarquable pour créer une petite communauté pour la gloire de Dieu. Ben, c'est un peu le projet ici. Alors, on vous invite. On va pas vous chasser, hein. Si vous voulez rester, alors attendez-vous quand même à un chantier qui pourrait éventuellement nous changer, peut-être d'en créer des surprises, mais quelque chose qui pourrait aussi nous bénir. Et je pensais aussi à David. Hein. David, on l'a lu, je pense, à la prière, qui a tout perdu à un moment donné. Hein. C'était les Philistins qui avaient tout capturé, femmes, enfants, tous les biens, et ainsi de suite, à Ziklag. Et puis finalement, David s'est encouragé dans le Seigneur. Et il est allé, il a rencontré un petit esclave qui lui a montré la route là. Il a retrouvé l'ennemi et il a tout repris. Il a tout repris. Est-ce que c'est possible qu'on reprenne tout dans ma famille? Tout cet héritage familial où finalement j'étais tenté depuis des années de dire oh non, c'est fini, on ne verrait plus, cette personne-là est perdue de vue et puis ça ne va plus. Si, c'est très, on est très tenté, n'est-ce pas? Mais Dieu ne vit jamais ce genre de tentation. Il voit toujours une pleine restauration, une pleine guérison sur nos familles et sur nos églises. On nous a parlé ce matin de fragments. C'était l'équipe de Paris Tout est possible qui nous a parlé des fragments. Vous savez, nous avons été tellement fragmentés, même au niveau de nos églises chrétiennes. Et Dieu est en train de réunir les fragments pour que ça puisse créer un ensemble, quelque chose de beau, de fort, qui va repartir.
Et puis, on a souvent parlé ici de la région. Moi, je voulais dire que ce matin que pour moi, c'est un chantier à long terme. Parce que je suis le premier, moi, de vouloir avoir une grande projet là, pour la région. Et à chaque fois, je me redis, non, il faut revenir un peu à ton premier chantier, c'est la famille. C'est la communauté où tu es rattaché, n'est-ce pas? Mais dans la mesure où nous sommes fidèles dans ces premiers chantiers, Dieu nous mettra sous la queue d'adopter d'autres chantiers, de rentrer dans d'autres types d'ouvrages. Donc il ne faut pas dépasser un peu notre sphère de responsabilité. On a tous un domaine particulier dans lequel il faut rester pour que notre onction soit mise à l'œuvre. Je m'explique. Vous avez été appelé, vous avez reçu certains dons, certains charismes de la part du Seigneur. Il ne faut pas essayer de jeter ces choses devant les ports et aller là dans les endroits où vous n'avez pas de responsabilité. Restons là sur les domaines que nous avons à cœur, où nous sommes sûrs que nous avons l'autorité spirituelle. Si vous êtes père, c'est dans la famille. Si vous êtes dans une église, vous avez une responsabilité, c'est dans cette communauté-là. Amen. Je termine avec cette émission de télévision, Jacques, où je pense que c'est sur M6. On nous invite là dans une maison, et puis donc il y a des restaurateurs qui viennent, et puis ils proposent toutes sortes d'aménagements. Ça s'appelle comment? C'est possible. Et puis on vit un peu donc les propositions entre donc les nouveaux propriétaires et les artisans, hein, qui viennent et qui proposent toutes sortes d'aménagements. Ça veut dire tout ça.
Voilà. Ma pensée, c'est que nous avons le choix. C'est-à-dire, le grand artisan, le restaurateur, il est là et il te demande, mais qu'est-ce que tu veux exactement dans la maison, hein? Non, mais c'est pas un souci, d'accord. Nous, on parle de finances, etc. Oui, il demande, qu'est-ce que vous voulez comme famille? Qu'est-ce que vous voulez comme communauté? Et c'est fantastique parce qu'en fait, il nous laisse de faire par le choix et la possibilité de collaborer avec lui et de créer une belle ouvrage. Je pense que c'est fantastique. Et en plus, c'est gratuit. C'est gratuit. Tous les matériaux sont gratuits. Et puis, on a qu'à assumer une responsabilité et rentrer dans ce chantier. Amen. Voilà, c'était tout.